10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, l'islam au présent, tous les samedis, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM. Soyez les bienvenus dans ce jour particulier. Nous avons l'imam Youssef Hachmaoui qui est avec nous. Bonjour imam.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça sent les vacances quand même, hein?
Oui, dans quelques jours.
C'est un jour particulier aujourd'hui.
Ah, tout à fait. Aujourd'hui est un grand jour.
Oui. Est-ce qu'on peut dire le jour de l'an?
Tout à fait. C'est bien le jour de l'an.
Ouais.
C'est bien le premier jour de l'année hégérienne. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er Muharram. Donc c'est le 1er janvier, si j'ose dire. Donc c'est le 1er Muharram. Donc c'est un mois sacré. Il fait partie des 4 mois sacrés dans l'islam. Donc nous en avons 3 qui se suivent, hein. Nous avons celui qui a suivi, donc après le Ramadan, nous avons un mois qui s'appelle Shawwal. Ensuite, nous avons un mois qui s'appelle Dhul Qa'da, et non pas Dhul Qa'da, c'est Dhul Qa'da, Dhul Hijja, là où il y a le Hajj. Et là, nous avons Muharram, donc le troisième mois sacré qui suit, mais le premier mois de l'année égyrienne.
Voilà, ce sont les quatre
tout
mois.
Tout à fait. Et nous avons Rajab qui est à part, qui est avant Sha'ban. Donc, oui, est un grand jour. C'est un jour, bien sûr, où il n'est pas franchement d'usage dans la communauté de se souhaiter bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, etc. Il est vrai. Néanmoins, ce n'est pas interdit de le faire. Ce n'est pas interdit aussi de souhaiter à l'ensemble de la communauté, de la société, une bonne année égérienne, qui, on espère, cette année, qui serait empreinte et épris de sagesse, de respect mutuel, et surtout d'apaisement dans la communauté et d'apaisement dans la société. Je pense que c'est vraiment ça dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment de l'apaisement dans la communauté, qui en a tellement besoin, comme d'autres communautés aussi. Mais singulièrement, là, on parle de la communauté musulmane. Même si je n'aime pas trop ce mot de communauté, parce que je ne considère pas que la communauté musulmane soit une communauté à travers des communautés qui cohabiteraient ensemble ou qui oseraient ou qui supposeraient feraient l'effort de cohabiter ensemble, mais c'est vraiment une composante pour moi aujourd'hui. C'est une composante de la société. Ce qui est sociologiquement, ce qui n'est pas la même chose. Entre une communauté, on a l'impression que voilà, c'est un petit peu l'île et la région. L'île et la région, cela veut dire, c'est comme si nous avions plusieurs îles, d'accord, qui cohabiteraient, qui vivraient ensemble. Et c'est comme si nous avions un pays, comme notre pays, la France, avec différentes régions qui sont connectées, qui sont avec quelques limites séparatives, c'est juste normal, mais avec des régions qui seraient connectées. Donc là, on est vraiment dans une composante de la communauté, on est une composante de la société, et non pas une communauté qui cohabiterait éventuellement ou pas, ou peu, ou avec d'autres.
Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire dans ce jour? Il y a quelque chose de particulier?
Non, si ce n'est un petit peu, voilà, que je le répète, de se souhaiter mutuellement bonne année, et pris, voilà, empreinte de paix, de joie, de solidarité, de respect mutuel, et surtout d'apaisement aujourd'hui, dont nous avons besoin. Après, bien sûr, il est aussi d'usage, non pas aujourd'hui, mais dans quelques jours. Donc le 9e jour et le 10e jour, nous avons ce fameux jour de Ashura. Ashura dans l'islam sunnite, je dis bien sunnite, où il est d'usage, conformément au texte prophétique, d'usage d'observer un jour ou deux de jeûne. Cela veut dire, si on peut faire Ashura, c'est très bien. Mais bien sûr, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons, si Dieu me prête vie jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e jour. Pourquoi, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est arrivé à Médine, a vu la communauté juive en train de jeûner? Leur a demandé, mais pourquoi jeûne-t-il? Ils lui ont répondu, il jeûne en commémoration, car ce jour coïncide avec le jour de secours à Moïse. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vais donc jeûner ce jour, et je vais aussi jeûner le 9e. Donc je vais jeûner le 9e jour, Tasoura, et le 10e jour, Ashura. Donc il est d'usage de jeûner.
Bien, alors imam Youssef, quel est le pays qui compte le plus de musulmans au monde?
À ce jour, et depuis d'ailleurs quelques décennies, hein, c'est ce pays, d'accord, dont nous entendons l'invitation de nos chers amis indonésiens,
oui,
qui est l'Indonésie, bien sûr.
C'est l'Indonésie. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à animer des émissions et des émissions religieuses, c'était un fait qui n'était pas très connu, finalement, je vous parle d'il y a 25 ans, hein, que l'Indonésie comptait le plus de musulmans au monde. Mmh. C'est quelque chose qu'on savait peu, finalement. Maintenant, on le sait.
qu'on savait peu, et je pense même qu'on ne sait pas trop aujourd'hui, parce que les gens, il y a un petit problème, à vrai dire. D'où vient-il, je ne sais pas. Culturellement, scientifiquement, sociologiquement, anthropologiquement, je ne sais pas d'où ça vient. Lorsqu'on parle pays musulman, les gens, dans l'inconscient des gens, on pense souvent Golfe, on pense souvent Arabie, on pense souvent Proche-Orient. Vous voyez, allez, je prends un exemple. Peut-être au risque d'être un petit peu, je dirais pas méprisant, mais un peu méchant. On va vous dire, tiens, cette année, la Lune a été vue dans tel pays. Donc, au vu de ces données que nous avons aujourd'hui, il serait bon, voilà, l'usage serait de jeûner, parce qu'une fois qu'il y a un pays musulman qui a identifié, qui a observé la Lune, il est important, ça c'est les jurisconsultes dans le FIRC qui le disent, donc dans la jurisprudence, dans la casuistique plus exactement, pour utiliser un mot un peu plus juste, dans la casuistique musulmane, qu'ils le disent, lorsqu'il y a un pays qui l'a observé concrètement, l'ensemble des pays doivent jeûner. Mais malheureusement, les dernières années, nous voyons que lorsqu'il s'agit de pays arabo-musulmans, ben, on nous dit qu'il faut les suivre. Ben, si c'est un pays, par exemple, comme la Turquie, comme le Sénégal, comme l'Indonésie, ben, on dirait qu'on n'a pas à les suivre. Ben, on dirait que ce n'est pas des pays musulmans, ou assez musulmans, ou complètement musulmans. Mmh. Et donc, ça, c'est un problème. Il y a quelques années, on nous a dit, ben, il ne serait visible que aux alentours de l'Australie, l'Indonésie, une partie de la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Mais l'Indonésie est le plus grand pays musulman. Pourquoi on ne devrait pas le suivre? Après, il est vrai que d'autres jurisconsultes vont dire, il est d'usage que les pays musulmans puissent jeûner le même jour, mais les pays musulmans qui sont pratiquement dans une même région. Parce que nous savons qu'avec le décalage horaire, si par exemple c'est en Océanie ou dans les Amériques, c'est pas simple de les suivre. C'est un petit peu l'argument qu'on nous donne. Mmh. Mais des fois, c'est la Turquie. La Turquie qui est vraiment milieu des pays musulmans.
C'est le centre.
Et qui est l'un des pays musulmans par excellence, en plus, la Turquie. Ou encore le Sénégal. Donc ils ne sont pas plus, pas moins musulmans que les autres.
Bon, ceci dit, les Turcs qui calculent.
Tout à fait, c'est bien ça, tout à fait.
Donc, ils calculent. Oui, l'Indonésie est le pays au monde qui compte plus de musulmans. Alors, il y a d'autres pays, il y a l'Inde et le Pakistan qui sont derrière, mais l'Inde est un gros pays musulman aussi. Alors, nous avons invité ce matin le professeur Warsito. Bonjour, professeur Warsito.
Bonjour, Philippe. Bonjour, cher imam.
Bonjour.
Voilà, on dit professeur Warsito parce que vous avez un nom qui tient lieu de nom et de prénom à la fois.
Exactement. Exactement. C'est unique. En fait, c'est avec un mot, c'est Warsito. Voilà.
Alors, quand vous voyagez sur votre carte d'identité, j'imagine, ça vous pose jamais de problème pour passer les frontières, ça?
Non, ça va. Oui. Je demande pour répéter deux fois. Warsito, voilà.
Ouais. Oui. Moi, j'ai des amis indonésiens à qui ça posait des problèmes, justement, d'avoir des visas, parce qu'ils avaient à la fois, ils avaient le deux fois le même prénom. Oui.
Et maintenant, ça s'améliore parce que moi, je dois utiliser le nom de mon père.
D'accord. Oui, pour compléter, si on vous demande de remplir un papier.
C'est très présent de chez l'ensemble des Indonésiens ou non?
Oui, surtout en fait pour les, je dis pas l'ancienne génération, mais surtout en fait, vous savez, notre premier président, il s'appelle Soekarno, c'est un mot unique. Deuxième également, Suharto, c'est un mot unique aussi. C'est pour cela en fait.
Le vice-président avait un nom et un prénom par contre.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Mais le président, le premier président n'avait pas
exactement.
De...
Exactement. C'est pourquoi je dis, c'est entre guillemets, parfois, pour l'ancienne génération, on utilise un seul mot.
D'accord.
Okay. Mais c'est unique, propre à lui-même.
Ok.
C'est propre.
Parce que c'est aussi très présent chez les Vietnamiens et chez les Indiens. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, lorsqu'on fait des janazas, excusez-moi, encore une fois, on parle encore de funéraire, je sais.
C'est ce qu'on parce dit que vous êtes dans votre activité de tous les jours.
Tout à fait. Et donc, il est très fréquent chez les Vietnamiens, notamment ben, ceux qui sont nés à Saigon et ceux qui sont nés au Vietnam dans les années 50-60. Il est très présent chez eux. En fait, il y a toujours SP. Je veux SP aujourd'hui. Mais c'est quoi ça, SP dans les prénoms? Ben, ils me disent, ben, en fait, c'est sans prénom. SP égale sans prénom. Et donc, c'est souvent le nom. Ils ont toujours un nom qui est des fois long. Et c'est uniquement ce nom-là qui fait office de nom et de prénom. Parce que des fois, des gens me disent, je m'appelle un tel. Alors, je m'appelle un tel. Dans la communauté, ils ont ce prénom-là. Mais sinon, dans les papiers, c'est encore un autre nom. Donc, c'est très présent chez les Indiens et chez les Vietnamiens. Mais je ne savais pas qu'en Indonésie, il y avait aussi ça.
Oui, exactement. En fait, je me rappelais, c'était lorsque l'année 97, 98, lorsque j'étais étudiant ici en France. C'est exactement mon prénom, c'est SP.
D'accord, ok.
Exactement, ici, on rajoute avec SP.
Voilà. D'accord, parce que des fois en Syrie, moi, quand j'ai étudié dans les années 90, on avait beaucoup, beaucoup, machallah, d'élèves et d'étudiants brillants d'ailleurs, indonésiens. Et des fois, ils avaient plusieurs noms et prénoms.
Exactement.
Je me rappelle des fois de Mohammed Nour Ali Yaqin. Et donc, ils avaient des fois plusieurs prénoms et plusieurs noms.
Nous, comme ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, l'Indonésie, le pays, qui le nombre de musulmans sont nombreux. Et maintenant, nouvelle génération, il y a beaucoup qui utilisent le prénom musulman.
D'accord.
Mohammed ou Ahmad, etc. Ridwan, etc. Voilà.
On peut savoir d'ailleurs en Indonésie, avec votre prénom, de quelle île vous venez d'ailleurs.
Exactement. Oui, pour l'ancienne génération.
Ou Warsito, c'est un.
C'est javanais.
C'est javanais.
Oui. Si derrière, comment notre mot est avec O, c'est d'habitude c'est javanais.
D'accord.
En majorité, javanais.
Ok, je pensais qu'on pouvait distinguer la religion, mais pas forcément la région ou l'endroit de là où on vient.
Oui, oui.
D'accord, à travers le nom.
À travers le nom.
Okay.
Mais surtout, en fait, c'est pour l'ancienne génération. Je dis, c'est pour les générations qui sont nées l'année 2000, 2000, maintenant, à partir de 2000, ça disparaît, en fait. Mm-hmm. Ça disparaît, en fait. Comment initiation de d'où on sait d'où vient de prénom, c'est difficile maintenant.
D'accord.
Mais c'était pour l'ancienne génération comme nous, c'est facile à savoir.
Voilà. Alors, le professeur Warsito est attaché culturel de l'ambassade d'Indonésie en France. C'est vos derniers jours, après 3 ans et demi. Donc, on voulait profiter de votre savoir encore quelques jours. Et on va essayer de comprendre ce matin qu'est-ce que ça représente de vivre dans le pays où il y a le plus de musulmans au monde et de savoir comment l'Indonésie est devenue ce premier pays musulman. Alors, ce jour, aujourd'hui, ce jour de l'an, c'est un jour férié en Indonésie ?
Non.
Non.
Non. C'est ça pour savoir pour tous vous, en fait, l'Indonésie, c'est pourquoi tout à l'heure on discute que l'Indonésie, le pays musulman, mais pourquoi ce n'est pas connu, etc. C'est d'ailleurs, en fait, nous, on n'est pas le pays musulman. En fait, nous, l'Indonésie est la République. Et c'est ça, exactement.
C'est-à-dire que l'islam ne fait pas partie de la Constitution.
Si, mais c'est ça. C'est unique de l'Indonésie parce que nous, notre gouvernement est basé sur le 5 piliers qu'on appelle Pancasila. 5 piliers de notre gouvernement, notre principe de vie en Indonésie. Et c'est pour ça, premier pilier, c'est croyant en Dieu unique. C'est justement grâce à cette phrase, en fait, religion, ça devient des avers également pour le gouvernement.
D'accord. Il faut croire en un Dieu unique. Mais est-ce qu'on a le droit d'être athée? Est-ce qu'on a le droit de ne pas croire en Dieu?
Voilà. C'est ça la question à ce moment.
C'est récent comme débat, ça, en Indonésie.
Et pour l'instant, il y a 6 religions officielles, entre guillemets, c'est-à-dire pour les Indonésiens qui, avec 5 religions. C'est l'islam, hindou, bouddhiste, et puis catholique, protestant.
Et confucianisme, non?
Et puis, non, c'est Konghucu. Voilà.
C'est
religion de chinois.
Ah, d'accord, ok.
D'accord. Ça, c'est les 6 religions officielles.
Exactement.
Et alors, et si on est athée, par exemple, est-ce qu'on peut être athée en Indonésie ou pas?
Si, si. Mais pour l'instant, c'est encore discussion. Parce qu'on doit s'approcher dans l'identité de quelle région.
C'est-à-dire que quand vous remplissez que les papiers pour faire votre pièce d'identité, on vous demande quelle est votre religion.
Oui, on doit écrire, en fait. On doit écrire. Comme par exemple, si on va faire de passeport ou bien pièce d'identité, c'est toujours, il y a des questions, appeler nom, prénom, date de naissance et puis religion.
Il n'y a pas SR sans religion?
Non, malheureusement.
Bien, on va en se promener dans le plus grand pays qui compte le plus de musulmans au monde avec le professeur Warsito jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, on va essayer de voir ce matin comment l'Indonésie est devenue le pays au monde où il y a le plus de musulmans. C'est la 4e puissance la plus peuplée du monde, l'Indonésie. Ça fait combien d'Indonésiens actuellement?
En fait, nous, la population indonésienne, c'est 270 millions d'habitants. et puis avec à peu près 90% ou 87%, ils sont musulmans. Et voilà, c'est à peu près 8 fois 240.
240 millions
d'habitants, ouais, sont musulmans.
Pour donner un ordre d'idée, la Malaisie, qui est votre voisin, voilà, ça fait combien de musulmans à peu près?
Oui, à peu près, Malaisie, c'est, au niveau nombre, moi, je ne sais pas, mais pourcentage, c'est plus que nous, pourcentage.
En millions de gens.
Non, je ne peux pas citer.
On va regarder les
chiffres. Je ne sais pas, oui, mais c'est beaucoup moins. Je crois
mais non, mais c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est oui, pour expliquer beaucoup, beaucoup que moins, dans la région, c'est vraiment le pays qui compte le plus de musulmans.
Oui, si on prend Singapour, Malaisie, Thaïlande, etc. Brunei, c'est vraiment tout petit, d'ailleurs. On ne parle jamais de Brunei.
Alors, Brunei, ça se trouve dans... C'est un tout petit pays au milieu de la Malaisie.
Tout à fait.
Et sur l'île de Bornéo.
Exactement. Côté relation entre les voisins du pays, en fait, nous, on a une... On dit association de ministres des affaires religieuses, Malaisie, Brunei, et puis Singapour, et puis Philippines. On utilise ça justement pour savoir ou pour comment, pour décider le début de jour de Ramadan. Et nous, on fait la réunion.
Il y a une, d'accord, comment, une concertation, une coordination
ensemble.
C'est les pays d'Asie du Sud-Est, en gros.
Exactement.
Thaïlande, non?
Thaïlande, non.
C'est pas dedans. Okay.
C'est plutôt que région qui
est l'Asie. Donc il y a Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour et Philippines. Donc c'est un conseil qui décide des jours de Eid et des jours de Ramadan.
Des critères qui sont la même chose, c'est-à-dire qui paraît avec la hauteur de la lune.
Afin de jeûner ensemble et de faire le Eid ensemble.
Exactement.
Super.
Oui.
Alors on parlait, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de l'année égérienne, hein, de l'année musulmane. Donc le calendrier en Indonésie, c'est le même calendrier que nous.
Oui,
en France.
Oui, c'est aujourd'hui en fait. C'est aujourd'hui la nouvelle année égérienne en Indonésie.
Ouais, d'accord, mais vous n'avez pas le calendrier égérien?
Non.
Non.
Non. Mais,
il y en a peu qui l'utilisent aujourd'hui.
Oui, on utilise également, c'est comment pour. Il y en a l'école musulmane, islamique, on utilise, il y en a calendrier de Hijriya. Mais officiellement, en fait, c'est calendrier de comme ici, comme en France.
Grégorien, quoi.
Voilà, okay. Grégorien.
Et les jours chômés dans la semaine?
Chômés, c'est dimanche.
C'est plus le vendredi?
Non, c'est pas vendredi. Sauf, comme ce que je me disais tout à l'heure, il y a une école privée de l'islam, c'est vendredi.
Ok.
Mais officiel, l'école publique, ou comment, le bureau... gouvernement ou bien l'entreprise, etc., tout est c'est dimanche.
Donc ils travaillent en Indonésie, on travaille du lundi au vendredi.
Exactement.
Et donc
exactement.
week-end, samedi, dimanche.
Exactement, c'est la même chose qu'ici.
Donc vendredi, l'Indonésien, s'il veut aller au Jumu'ah, il fait quoi? Il demande autorisation, il peut y aller?
Oui, non, officiellement, en fait, il y a un pot pour vendredi, c'est unique, c'est à peu près 2 heures.
Okay.
Et sinon, le reste d'autres jours, c'est uniquement 1 heure, pot de midi, mais pour vendredi, c'est à partir de 11 heures, jusqu'à 1h30.
D'accord. Donc ils ont le temps d'aller faire Jumu'ah tranquillement.
Exactement.
Et revenir.
Okay. Comme nous, on est le pays tropique, et le calendrier, le moment de prière, c'est toujours la même chose chaque durée de l'année. Mm-hmm. C'est pourquoi le temps de repos, la journée de vendredi, c'est 11h jusqu'à 1h30 à peu près.
Pause double.
Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Indonésie est le pays numéro un, c'est la destination halal numéro un au monde. Hein.
Oui.
Alors, on parle beaucoup de Bali, mais c'est de loin, vous êtes le pays qui est le plus visité par les musulmans au monde.
Mm-hmm. Oui, avec surtout notre programme maintenant du ministère des Affaires, comment, l'économie créative de notre gouvernement. Et maintenant, c'est vraiment, on va plus au sujet de touristique halal. C'est comment organiser restaurants, hôtels, etc., etc. Et ça commence maintenant, ce n'est pas ce commence même depuis longtemps, mais renforcer de cette voie, c'est à partir de dizaines dernières années. Voilà.
D'accord, mais c'est plus des vacances halal ou plus des vacances entre guillemets éthiques? Ça veut dire, lorsque vous dites des vacances halal, c'est uniquement tout ce qui va être consommation et tout ce qui va être nourriture halal, ou c'est vraiment le halal au sens très large? Cela veut dire tout, ça veut dire les piscines halal, les plages halal, tout.
Les deux. C'est uniquement halal au niveau nourriture, c'est depuis longtemps.
D'accord.
Mais maintenant, ça commence, comment organiser, gérer pendant le voyage, comment à l'hôtel, comment piscine, etc. C'est, okay. Ça commence,
pour que les familles, voilà, les femmes, les hommes puissent cohabiter et puissent chacun s'épanouir avec des activités, des loisirs, tout en étant dans un cadre halal.
Oui, okay. Oui, il faut comprendre également. Ce système, ce n'est pas uniquement inclusif, mm-hmm. mais c'est-à-dire exclusif, mais inclusif, c'est-à-dire quelque chose qui est ouvert, quelque chose qui tolérance, mm-hmm. ce n'est pas privé entre guillemets.
Oui, c'est pas que pour eux. Quoi. C'est inclusif, ça voilà. veut dire c'est vous êtes dans une inclusion. Oui, on peut même quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas pratiquant, exactement. Peut venir être présent et consommer, voilà. rester, séjourner, voilà. pas de souci.
Parce que j'ai peur de la définition, ça devient inclusive.
Oui, ça veut dire c'est que pour eux et c'est
voilà,
tout quoi.
Ouais. Exclusive, voilà. C'est en fait c'est comme ça et on connaît ça et quelque chose qui est ouvert, tolérance, et la vie quotidienne, c'est comme ça. Comme tout à l'heure, imaginez que vendredi, il y a un pot spécial, ce n'est pas uniquement pour les musulmans. Il faut, mm-hmm. il faut comprendre, c'est pour toute la communauté indonésienne. C'est également même pot, mm-hmm. c'est-à-dire à partir de 11h jusqu'à 1h.
C'est bien, ça arrange tout le monde.
Voilà.
Une pause double.
C'est exactement. voilà. C'est d'ailleurs comme le jour férié, par exemple. Le jour férié, ce n'est pas uniquement, même la fête d'Eid al-Fitr, par exemple, ce n'est pas destiné uniquement aux musulmans. Mais toutes les communautés indonésiennes, tout le peuple indonésien, population indonésienne, c'est tout est férié. Et également, lorsqu'il y a le jour férié de Noël, et tout est férié. Voilà, c'est ça.
En fait, quand il y a un jour férié pour une communauté, l'ensemble des Indonésiens en bénéficient, c'est ça que ça
exactement.
Veut dire.
Exactement. Exactement. Peut-être on va imaginer, oh, alors, en Indonésie, vous avez beaucoup de temps, comment le jour férié? Mais en fait, non. on calcule, en fait, c'est le même jour férié parce que nous, on n'a pas férié lorsque l'été, férié lorsque l'hiver, nous, on n'a pas ça. C'est ça. Le jour férié, c'est plutôt le jour férié de la fête religieuse de population indonésienne.
J'ai peut-être une question, si vous le permettez, Philippe. L'Indonésie est réputée depuis de nombreuses années comme étant un pays. J'aime pas trop dire tolérant, mais un pays vraiment où règne le respect mutuel entre les communautés, entre les composantes même indonésiennes. C'est plus le peuple, l'éducation du peuple qui est faite telle que, et donc on arrive à vivre ensemble et à se respecter mutuellement, etc. Ou bien c'est aussi des politiques gouvernementales qui ont fait que les populations aujourd'hui arrivent à cohabiter aisément. Et on entend ce pays-là, même si on entend peu de choses d'ici. Est-ce que c'est dû, peut-être que c'est un peu des pays asiatiques ou anglophones, on n'entend pas tellement parler et beaucoup parler de l'Indonésie, de la Malaisie, de Brunei, des Philippines, etc. Est-ce que c'est vraiment dû à l'éducation de la population, où il y a aussi des politiques qui sont mises en place afin que les communautés puissent cohabiter et vivre ensemble et faire société?
Merci. En fait, lié le premier, en fait, comme vous savez, en fait, l'islam arrive à Indonésie, c'est longtemps avant notre gouvernement se construit, c'est-à-dire indépendant ou bien l'indépendant de l'Indonésie. L'islam arrive en Indonésie, c'est longtemps avant, c'est d'ailleurs, j'ai noté, c'est à peu près à 7e siècle, l'islam est déjà arrivé en Indonésie. Et surtout, c'est justement, grâce à première, ce que vous avez cité, nous, les Indonésiens, on a un caractère qui est ouvert, souriant, tolérance, respect, etc. C'est ça, la base de notre culture qui nous fait d'être convivre ensemble. Avec tolérance, on vit ensemble. Et également, lorsque l'Indonésie, le gouvernement, l'indépendance de l'Indonésie, et justement, l'Indonésie se construit grâce à un accord, en fait. Un paix qu'on appelle un accord. Ce n'est pas paix qui est donné ou bien renforcé directement, mais un accord avec différents systèmes, différentes cultures, différentes ethniques, différents. C'est ça. Un paix qui est un accord. C'est pourquoi, en fait, République, le choix de notre. Comment fondateur de Indonésie avec le 5 piliers qui est principal, comment on vit ensemble avec le premier pilier.
Alors on a vu le premier pilier, voilà, c'est donc croire en Dieu, en Dieu unique.
Et quelle que soit la religion.
Oui.
C'est pourquoi, comme tout à l'heure, parfois c'est difficile à expliquer s'il y a Indonésiens qui n'ont pas la religion. Parce qu'en fait, c'est en croyant en Dieu unique, c'est ça la raison. Et puis également, deuxième point, c'est grâce justement comment le gouvernement également gère la vie quotidienne entre les religions, entre la communauté, avec le système, par exemple, l'éducation, ou bien les critères comment vivre comment construire une mosquée, comment construire une église, etc. Il y a un règlement officiel du gouvernement. Ça, c'est deuxième, comment,
deuxième pilier.
Important, voilà. Oui. C'est pourquoi on pouvait maintenant, on vit ensemble avec des différentes religions, différentes cultures, etc. Et c'est grâce à ces deux points principes de nous aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des mariages interreligieux? Est-ce qu'on assiste, par exemple, alors il y a beaucoup de protestants, est-ce qu'on voit des protestants se marier avec des musulmans ou pas possible?
C'est très bien, c'est une bonne question, en fait, Philippe.
Surtout dans l'île où vous venez, puisque vous venez de Sumatra, il y a beaucoup de protestants à Sumatra.
Exactement. Ouais. Mais ça devient commun. Quelque chose qui maintenant, ça devient ouvert. Il y a des nouvelles générations qui se marient avec différentes religions. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dans notre gouvernement, justement, à ce moment-là, gère cette situation. Il y a un mariage qui est officiel, géré par l'Office des affaires religieuses, c'est également officiel, c'est si le mariage, la même religion, quelle que soit, musulmane avec musulman, ou bien chrétienne avec chrétien. Ça, c'est à cette voie. Et il y a un deuxième office, c'est office état civil. État civil. C'est ça le mariage. Si qu'on ne peut pas réaliser avec le religieux tout à l'heure, il y a un mariage pour la communauté ou génération avec différentes religions. C'est pas
extra religieux, en fait.
Voilà, c'est extra religieux, c'est ça. Ça commence bien, il y a d'autres solutions, c'est ça. Notre volonté.
Mais le mariage religieux, c'est le mariage reconnu, c'est ça?
Exactement, c'est officiel. Parce que nous, il y a un ministère des affaires religieuses et parmi. Directeur, il y a un directeur la vie quotidienne de communautés, et quelle que soit la religion. Et c'est pourquoi chez nous, il y a un directeur, c'est-à-dire sous le ministère, il y a 5 ou 6 directeurs qui s'occupent des musulmans, également qui s'occupent des hindous, chrétiens, protestants, etc. Et tout est organisé par les affaires religieuses. Même à l'école, d'ailleurs. Si, peut-être la dernière fois, j'ai déjà également expliqué. Si dans dans une école, il y a un étudiant qui est chrétien, et l'école doit également donner un professeur ou un enseignant de chrétien. Et quel que soit le nombre, mais en seul, dans une grande école, obligé d'avoir un enseignant de cette religion.
Alors, est-ce que les Indonésiens parlent beaucoup arabe?
Malheureusement, on parle pas l'arabe, mais on comprend, on lit bien le Coran et puis on connaît la traduction. Mais l'arabe vraiment littéraire, l'arabe de Coran, l'arabe de Hadith, ce n'est pas l'arabe parlant. Ça commence également surtout avec le nombre de populations de musulmans qui sont énormes. Et il y a beaucoup d'écoles de coranique qui commencent. Mais ce n'est pas unique, ce n'est pas exclusif, mais inclusif, et c'est-à-dire il y a ouvert. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent deuxième langue, après anglaise, c'est arabe. Et ça devient commun. Même à l'école publique également, il y a la proposition de la langue arabe.
Voilà. On retrouve des mots arabes dans la langue indonésienne.
Voilà, merci de me rappeler ça. Comme le nom de Djur en Indonésie, c'est lundi, c'est Senin. Senin. En fait, c'est Esnen. Comme Jum'a, chez nous, c'est vendredi. C'est Jum'a. Samedi, c'est Sabt en Indonésie. C'est exactement, il y a beaucoup de mots arabes qui sont adoptés en la langue indonésienne.
Voilà, qu'on retrouve. Exactement. Comme on retrouve un peu des mots néerlandais, des mots. Voilà.
Exactement.
C'est la chouchouka, comme on dit.
Oui.
Chez nous. Le professeur Warsito est avec nous. On parle du pays qui compte plus de musulmans au monde. On parle de l'Indonésie jusqu'à 11h.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous profitons de la présence du professeur Warsito aujourd'hui qui quitte ses fonctions d'attaché culturel de l'ambassade d'Indonésie en France. On profite encore quelques jours de ses connaissances pour visiter et pour mieux comprendre ce pays, le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Vous disiez 240 millions tout à l'heure. Alors, ça a commencé quand, finalement? Ils sont arrivés quand, les musulmans en Indonésie? Ils sont arrivés par où?
Oui, merci Philippe. D'ailleurs, en fait, juste à ce moment-là, je vais vraiment remercier pour FM qui, depuis 3 ans et demi, ma mission ici, et toujours, je suis avec vous pour présenter l'Indonésie. Ça, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Et revenons maintenant à la question de quand, en fait, l'islam rentre en Indonésie. C'est, comme tout à l'heure, je disais, c'est à partir du 7e siècle. C'est vraiment l'histoire qui est plus longtemps qu'on croyait, en fait. C'est depuis l'année 48 Hijri. C'est, ou bien plus précisément, c'est 672 l'année de Grégorien. Et c'est pour ça qu'il arrive en fait à côté de nord de l'Indonésie, c'est l'île de Sumatra, c'est au bout. C'est pourquoi on dit maintenant c'est la porte de la Mecque, cette ville, justement.
Medan.
Medan et puis avec Aceh.
Aceh,
et en
oui,
fait, c'était,
Aceh,
ouais. Ce n'est pas encore comme Provence qui se sépare maintenant, mais c'était au côté de nord de l'île Sumatra, nord et l'ouest, qui est vraiment au bout de Sumatra, qu'on appelle une ville qu'on appelle Barus, en fait. Mm. Barus. P-A-R-U-S. Mm. C'est vraiment connu, en fait, dans le mot arabe, en fait. Cette ville, en fait, c'est connu par le parfum. C'est un type de craie ou cambre.
Le camphre. Ah oui, de camphre.
Voilà. Staline, exactement, c'est ça. En fait, c'est vient de...
Il faut demander à l'imam, professeur. Parce qu'en fait, dans sa profession, on connaît bien le camphre et la naphtaline.
C'est justement, c'est grâce à ce produit qui vient de cette ville. Il y a un commerçant arabe qui arrive à cette époque. Ce n'est pas uniquement ce produit, mais il y a d'autres produits qui commencent d'être importés pour ramener en Arabe. Et c'est avant de colonisation, ça, cette histoire. Et mais reste à cette ville avec différents, etc. etc. Et puis, deuxième période, c'est justement pendant colonisation. C'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que c'était à cette époque...
Alors, vous, ce que vous appelez la colonisation, vous avez été colonisé par qui, professeur Ossito?
Par les Pays-Bas.
Hollande.
Hollandais, voilà. Et Hollandais. Et c'est pourquoi, en fait, à ce moment, à cette période...
Qui ne sont pas musulmans, les Hollandais.
Qui ne sont pas musulmans. Oui. C'est justement parce qu'ils sont arrivés à Indonésie, ils veulent dominer les portes commerçants. Mmh. Et à cette époque, il y a déjà commerçants arabes. Et... justement, grâce à cette situation, les commerçants arabes voient partir à d'autres petites villes en Indonésie.
Oui, c'est un grand carrefour commercial.
Exactement.
Pardon.
Ça se déplace et puis ça commence, et toujours comme ils sont musulmans, et une nouvelle ville se construit petit à petit avec l'arrivée de ce commerçant musulman. Mmh. C'est ça l'histoire, en fait. C'est justement grâce à Hollandais, c'est entre guillemets, à cette histoire, on dit grâce, parce que grandes portes qui sont déjà, il y a beaucoup de commerçants arabes, vont être dominés par Hollandais.
Lorsque vous dites les commerçants arabes, vous voulez surtout dire les commerçants musulmans?
Oui,
oui, bien voilà. Sûr, bien sûr, parce qu'on sait que normalement en Indonésie, quand vous parlez justement des camps compagnie, on entendait beaucoup que c'était les premiers arrivants en Inde, mm-hmm. mais pas en tant que citoyens, mais en tant que commerçants, oui. furent beaucoup les Iraniens, qui amenaient aussi des produits d'Iran,
oui.
et qui troquaient avec les Indonésiens pour le camphre, etc., qui reprenaient pour le Proche-Orient, vu qu'il n'y en avait pas.
C'est ça,
et il y avait aussi les Indiens.
Qui vient après, oui. il y a beaucoup de commerçants qui viennent d'Inde.
Inde et Iran, c'était voilà, Inde et Iran, tout à fait.
Qui parle en
Indonésie. Troisième, quatrième siècle, cinquième
exactement,
siècle.
Exactement.
Ça. Même si l'islam indonésien est un islam sunnite.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui.
Sunnites, voilà, majorité nous sunnites, qui est ouverte avec différentes visions, parce que ça, justement, tout à l'heure j'ai cité, nous on est avec beaucoup de diversité de ethniques, avec 1300 ethniques différents, et ça, on vit avec musulmans qui est ouverte, l'islam qui est moderne, ouverte.
C'est beaucoup l'islam Shafi'i, c'est ça?
Islam
Shafi'i, oui, l'une des écoles de jurisprudence qu'on n'a pas trop en France, excepté chez les Comoriens. Mm-hmm. Mais voilà, l'islam Shafi'i, donc l'une des quatre écoles de jurisprudence dans l'islam, très présente aussi en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, etc.
Surtout avec l'association, organisation sociale religieuse Indonésie, qui sont nombreux maintenant. Et ça, justement, c'est dans l'histoire de colonisation. Ils sont déjà, on a déjà l'organisation sociale de l'islam. C'est Muhammadiyah, l'année Muhammadiyah, c'est 1912. Et puis avec Nahdlatul Ulama, qui est vraiment grande association.
Qui est la plus grande association musulmane mondiale.
Mondiale, voilà, on peut dire comme ça. Ouais. Et ce n'est pas uniquement avec le nombre, mais la richesse aussi, parce que cette association.
Ils ont vraiment du patrimoine. Hein.
Exactement.
Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à ça, cher professeur. Les étudiants que l'on voit beaucoup, et qu'on voit beaucoup depuis les années 90-2000, partir, venir aussi. On les voit venir dans des pays musulmans type Syrie, Jordanie, Maroc, mais notamment Maroc, c'est très récent, mais c'est surtout à l'époque beaucoup, mais alors beaucoup en Syrie. Moi, je les ai côtoyés pendant des années, et puis c'était vraiment des centaines, voire des milliers d'Indonésiens qui venaient tous les ans dans les instituts islamiques en Indonésie, notamment à Al-Azhar en Égypte, notamment aussi en Jordanie. Tous ces étudiants aujourd'hui, est-ce que c'est une décision individuelle ou une décision familiale de cotiser et de les envoyer pour étudier la charia, etc., et les hautes études islamiques, ou c'est aussi Nadwatul Ulama ou des politiques gouvernementales qui veulent aussi former des étudiants en sciences islamiques?
Oui. En fait, les deux sont notre voie de choisir faire les études à l'étranger. Et maintenant, ça commence en août, en fait. On fait les études aux étrangers, surtout pour au sujet de religion, ou hors de religion. Il y en a qui sont financés par la famille, par leur famille propre. C'est à partir de l'année, justement, grâce à notre économie gouvernement qui s'améliore. Jusqu'à présent, nous, on est membre de G20, et justement, notre économie, et ça commence à améliorer bien. Et il y a la plupart des familles qui sont riches, on peut dire comme ça, envoient leurs enfants pour faire les études aux étrangers, quel que soit, c'est-à-dire au sujet de religion, surtout à cette époque, parce que on est musulmans, la majorité sont musulmans, mais parfois, on voudrait savoir d'origine. Religieux. Mais dès leur retour, ils vont avoir une vision ouverte parce que ça se rencontre avec notre culture, notre vie quotidienne, et ça devient une religion qui est ouverte, moderne, et puis tolérance, et juste au milieu, voilà, qui est important, parce que l'islam, c'est ça. L'islam, ce n'est pas une religion qui est stricte et puis s'arrête, mais ouverte et juste au milieu.
C'est la religion du juste milieu.
Voilà. On n'entend pas de problème aussi en Indonésie. On n'entend jamais parler de l'Indonésie. Il n'y a pas de problème entre communautés, entre gens.
Bah, disons qu'on est loin. L'éducation qui fait que. On est loin de l'Indonésie aussi. Ouais. C'est des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup en France.
Ok. Hein.
Ouais. En général, non. En majorité. Je dis en majorité. S'il y a un problème, c'est un problème personnel. Mm-hmm. Ce n'est pas vraiment, vraiment un problème religion. Parce que déjà, nous, on a un caractère qui est ouvert. Et puis, avec la religion qui sont organisées ou bien gérées par le gouvernement avec proportion de vraiment. Bien.
Après, on n'a pas vraiment de pays où il y a franchement de mauvaises cohabitations entre religions. C'est très rare.
Très
rare, excepté très dans rare. Des pays où c'est pas un problème religieux, c'est plutôt un problème politique ou un problème de colonisation qui fait qu'il y a des tensions entre communautés. Mais c'est rarement, voilà. C'est rarement le.
Très rare.
Alors, c'est un point dont on parle souvent, cher Youssef, ensemble, hein, c'est l'école de la discipline des Indonésiens qui se préparent au Hajj.
Tout à fait. C'est pèlerinage. La question majeure. Magistral.
C'est combien d'années de préparation pour aller au Hajj, professeur?
Non, on calcule pas l'année, mais en fait, c'est 6 mois à peu près. Et ça, vraiment officiel, géré par le gouvernement.
C'est justement, c'est ça. C'est 6 mois de préparation.
C'est 6 mois, mais une semaine.
Préparation,
parfois.
Formation, quoi.
Oui, formation. Ouais. Formation. Mmh. Et vraiment pratique. D'habitude, chaque région en Indonésie, on a un symbole de la Mecque. C'est-à-dire Kaaba, en fait. Symbole de Kaaba.
Kaaba, oui.
Voilà. Pour pratiquer. Centre de formation de Hajj. C'est chaque région, on a ça. Et on pratique vraiment lorsqu'on est arrivé à la Mecque. C'est exactement ça. On pratique ça.
Combien de temps il faut se mettre sur une liste d'attente pour aller au pèlerinage ou
Voilà, c'est malheureusement ça. On attend longtemps. On attend,
mais genre combien à peu près?
à peu près 20 ans, hein, mettons.
Ah ouais, d'accord. Donc, c'est
tôt, alors. Donc, t'imagines,
c'est ça, malheureusement, c'est à cause, à cause du Covid. Et surtout, c'était à cette époque, comme la ville de Jakarta. Mm. Et c'était lorsqu'il n'y avait pas Covid, c'était déjà 15 ans. Okay. Et maintenant, ça devient en plus. Parce que
vous inscrivez quand vos enfants ? À la naissance ?
Oui, d'habitude, c'est comme ça. La famille qui sont riches, c'est déjà inscrire pour les gens.
Donc, on s'inscrit très tôt. Voilà, ouais. Dès qu'ils sont petits, on commence à les inscrire en liste d'attente.
Et ça, c'est notre problème maintenant.
Mais c'est vrai, vous faites bien de le souligner, cher Philippe, les Indonésiens, les Malaisiens, même les pays dont le professeur a cité, hein, Thaïlande, etc., sont vraiment des modèles. Nous, on voit les pèlerins au quotidien, pas au quotidien, mais annuellement, lorsqu'ils rentrent du hajj, du pèlerinage, ne citent que les bienfaits et que cette image très positive qu'ils ont gardée des pèlerins indonésiens, malaisiens, en disant discipline, respect, formation, organisation, distinction. Ils sont même distingués au niveau de ce qu'ils portent, afin d'être bien coordination, synchronisation, organisation. Bouddhisme, mais les Indonésiens, les Malaisiens, c'est la crème de la crème, quoi. Machallah.
Merci. Oui. C'est justement, c'est grâce en fait, c'est formation. Et nous, on comprend bien que pour les gens qui partent à l'Indonésien qui part à la Mecque. D'habitude, c'est la qualité de vie, c'est riche. C'est parce qu'il faut moyen. Ils vont rester. C'est ça, il y a plusieurs niveaux de pèlerinage qui est organisé. C'est-à-dire, il y en a qui sont rapides, c'est 2 semaines. C'est uniquement la semaine de Hajj. Et puis, il y en a le normal, on dit normal, parce qu'en fait, c'est qui sont vraiment organisés par le gouvernement, c'est 40 jours.
Énorme.
C'est à peu près 7 jours ou bien 6 jours à Médine, et puis le reste à la Mecque.
Super.
Et c'est pourquoi il y en a
un mois de vacances.
Un mois et
plus les taxes. Hein,
Et surtout, c'est ça, comment le gouvernement gère ça bien, parce qu'en fait, il y a le congé qui est autorisé par le gouvernement. Pour ceux qui sont musulmans, ils peuvent demander au gouvernement pour avoir congé pour Hajj. C'est officiel, on peut demander ça. Et c'est pourquoi, comment le gouvernement vraiment gère la vie quotidienne de notre religion, c'est vraiment bien organisé.
Alors, on parlait de cette fusion parfois, mais vous verriez les mosquées indonésiennes, ça c'est qu'il y a une école architecturale de la mosquée indonésienne, régionale même. Hein.
Oui, il y a un typique.
Regardez peut-être, si vous êtes sur Internet, regardez, googlez la mosquée de Padang,
exactement,
par exemple, qui est peut-être aujourd'hui la mosquée la plus emblématique dans ce qu'on fait architecturalement.
Typique. C'est vraiment lié avec, justement, tout à l'heure, on vit avec les cultures.
Chaque région,
parfois, une typique, comment le type d'architecte de bâtiment officiel, c'est-à-dire soit bâtiment de gouvernement, c'est-à-dire le bureau de gouvernemental, ou bien de les mosquées, vraiment avec le différents modèles qui est lié avec
la région, la culture.
Voilà, la culture.
Ça donne envie. Ça donne envie.
Faut inscrire, il y a 20 ans. Il y a 20 ans d'attendre, cher. Ah, ça donne envie, surtout que l'Indonésie, pour ceux qui nous écoutent, vient de réouvrir. Ça a été très compliqué d'y aller, mais maintenant, il y a plus de quarantaine, pour l'instant, à Jakarta. Au jour où on parle, il y a plus de quarantaine.
Oui.
Donc voilà, vous pouvez y aller. Il n'y a même pas besoin d'un test PCR
non.
Au jour d'aujourd'hui. Enfin, ça peut changer, mais en tout cas, il n'y a pas besoin. Donc il suffit, vous prenez votre visa à l'arrivée.
Exactement.
Ça coûte 30 euros.
Oui, à peu près.
30
oui.
euros pour
c'est
le
visa. C'est assez simple d'y aller. Quoi.
Pour un mois, oui, c'est simple.
Oui. En plus, vacances halal.
Oui. Si vous avez un peu de sous sur votre code de vie, vous pouvez y aller, oui. Parce que les billets d'avion ont augmenté.
Oui, surtout à ce moment-là. C'est vraiment 2-3 fois, hein, parce que la saison qui est vacances scolaires et vacances...
Oh, on le voit pas partout, hein. Pour le Maghreb, c'est pas simple. Hein. Maghreb, Afrique actuellement, Afrique subsaharienne, les billets ont doublé, ont triplé. Hein. Nous, on a beaucoup d'amis comoriens et autres qui veulent partir... Pas évident, mais bon, c'est comme ça.
Professeur Warsito, Eibou Warsito qui est là, c'est la Majalan.
Merci.
Bon voyage.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir d'avoir été avec vous pendant toutes ces années, d'avoir partagé toutes ces histoires.
Merci beaucoup. Et je vous attends tous en Indonésie.
Oui, tous les auditeurs, on va donner vos 06.
En plus, on a oublié une chose, oui. Philippe, on y mange bien surtout.
Oh là. Oui. Non, bon, ça, c'est un autre sujet, ça. Emmanuel Mariani qui nous écoute. Bonnes vacances, Chir, vous aussi.
Bonnes vacances
vous
à
partez,
tous.
Puis, enfin, vous attendez vos papiers, vous.
Ah, tout à fait, ils arrivent.
Ça, c'est un autre sujet.
J'espère.
Merci et passez un très bon week-end sur Beurre FM.
Merci.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.